France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City, Sandy Berhousey.
Haliam Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Son pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthès.
C'est une fake news d'une ampleur considérable. On parle de milliards de vues. Elle a refait surface avec force cet été. Ce mois d'août, l'infox sur Brigitte Macron est redoutable parce qu'elle est planétaire et ce sera le thème de notre premier rendez-vous dans Un jour dans le monde. Emmanuel Macron en Moldavie veut lutter contre les ingérences russes. Vous allez voir qu'elles ne sont pas que russes. Les ingérences loin de là, c'est Louise Baudet qui nous le raconte en remettant le monde à l'endroit. Et si Medellin était la Silicon Valley de l'Amérique latine, en tout cas, elle se donne les moyens de le devenir. Un reportage signé Najet Benrabah. Juste avant 19h, nouveau rendez-vous dans Un jour dans le monde, signé Ilana Mourioussef. Ça s'appelle Écrire le monde ou comment les écrivains marchent sur la planète aujourd'hui. Pourquoi l'Irlandais John Boyne est devenu irritant pour tous ses confrères.
Quand j'ai découvert que j'étais sélectionnée, j'étais folle de joie. Ça a duré quelques heures, puis j'ai découvert que John Boyne aussi était sur leur liste.
Et vous comprendrez cette réaction tout à l'heure à 19h54, en fouillant sous les radars également. Guillaume Audat a trouvé Serena Williams qui fait de la pub pour une pilule minceur. Le monde est vaste, on n'a qu'une heure, c'est parti.
French President Emmanuel Macron and his wife Brigitte are suing right-wing podcaster and conspiracy theorist
Candace Owens. C'est Jack Tapper qu'on entend, qui annonce fin juillet sur CNN, chaîne mainstream, comme on dit, la plainte du couple Macron contre une influenceuse américaine qui s'appelle Candace Owens. Bien sûr, on y reviendra. Bonsoir Thomas Huchon.
Bonsoir.
Journaliste, auteur, documentariste, vous êtes un des grands spécialistes de la désinformation et comment elle se propage. Vous avez écrit « Résister aux fake news », justement, publié aux éditions First. Si on a choisi de revenir, Thomas Huchon, sur cette fake news assez dingue de Brigitte Macron est un homme, c'est parce que cette fake est planétaire, qu'elle prospère sans jamais faiblir, qu'elle a prospéré de manière hallucinante tout cet été. D'abord, est-ce qu'on a déjà vu une fake news faire un chemin pareil ou pas?
Là, je crois qu'il y a, assez peu d'éléments de comparaison. Un élément qui serait aussi faux, aussi viral, de manière aussi rapide et de manière aussi étendue.
Et aussi même... dingue par ailleurs. Hein,
et alors, là, bien entendu, il va à un moment ou un autre falloir utiliser des qualificatifs qu'on entend assez rarement dans votre émission. Je suis désolé de,
vous en prévenir.
Mais oui, c'est totalement grand-guignolesque d'une certaine manière. Et si c'était pas si grave, ça pourrait, d'une certaine manière, peut-être nous faire sourire. Ça ressemble en réalité à une espèce de mauvaise blague de fin de dîner à une époque où on se permettait de dire des choses qui n'ont heureusement plus cours aujourd'hui.
Ouais, mais ça dit quelque chose, effectivement, de l'époque. On va revenir sur le chemin de cette fake news, mais si elle reste vivace, c'est aussi, et c'est pour ça d'ailleurs que CNN en parle, parce qu'Emmanuel Macron a fini par répondre. Il attaque en justice, il l'avait fait en France, il le fait aussi aux États-Unis avec ceux qui la répondent aux États-Unis. Je pense qu'à sa place, on aurait tous fait la même chose, en fait. Mais au fond, est-ce que c'est pas ça l'erreur? Réfuter, c'est alimenter?
Je pense que quand une histoire, quand un narratif, un élément fait des milliards de vues sur les réseaux sociaux, je crois que l'idée qu'on pourrait venir accentuer cette audience en venant la contredire est un petit peu faire une erreur et ne pas très bien comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux aujourd'hui. Je crois que au contraire, chaque jour qui passe où Emmanuel Macron n'attaque pas en justice pour dénoncer ce mensonge éhonté, eh bien en réalité, il lui donne d'une certaine manière une forme de grain à moudre, il lui donne une forme d'importance. Et donc, ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est pourquoi, dès le départ, le couple Macron n'a pas immédiatement attaqué sur cette affaire-là. Alors,
mais peut-être pour la même raison, parce que vous en parlez dans Résister aux fake news, peut-être qu'ils ne l'ont pas fait exactement pour la même raison qui est la vôtre, c'est-à-dire c'est tellement grotesque qu'on ne met pas les pieds dedans.
Effectivement, on se remet un tout petit peu en arrière, on est au mois de novembre 2021 et cette histoire va sortir. Elle va sortir sur les réseaux sociaux et elle est poussée à la fois par un couple un peu bizarre, deux femmes qui se retrouvent pour faire des vidéos sur YouTube. Et en réalité, derrière ça, il y a quand même la complosphère française. Il y a un personnage comme Alain Soral qui possède une revue qui s'appelle Faits et Documents, dans lequel il y a Xavier Poussard, qui est un peu son enquêteur fétiche, et qui est lui, en fait, qui va structurer toute cette histoire.
Et qui veut qu'elle traverse l'Atlantique, d'ailleurs.
Et voilà, et c'est lui qui va pousser à tout cela. Donc, il y a à la fois une histoire qui vient épouser un certain nombre de théories du complot qui circulent déjà sur Internet. L'idée qu'il y aurait derrière les puissants des secrets, des secrets parfois horribles, des choses absolument criminelles qui seraient cachées aux citoyens. Et donc, on va, avec cette histoire-là, essayer de lever cette espèce de cocotte-minute un peu dingue. Et en réalité, le problème, c'est que les gens qui vont être les premiers à être confrontés à cette histoire sont, par le jeu des réseaux sociaux, des algorithmes et des bulles de filtre, hein, qui vous montrent plutôt ce que vous croyez déjà un peu, bah des gens qui vont avoir tendance à y croire.
Mais Thomas Huchon, qu'est-ce que ça nous dit, en fait, quand un truc aussi grotesque peut prendre une ampleur de ce type-là ? Le sens de ma question, c'est est-ce que les réseaux sociaux, la résonance, effectivement, tout ce qui augmente aujourd'hui, est-ce que ça suffit ? Pourquoi il y en a d'autres des horreurs qui tiennent pas. Celle-là, elle tient, en fait.
Ben, je crois que celle-là, elle
c'est
coche...
pas que la caisse de résonance. Quoi.
Non, elle coche toutes les cases. Elle coche toutes les cases parce que elle vient donner une forme de grain à moudre, encore une fois, à un certain populisme qui imagine que les puissants sont tous des salopards qui font des horreurs dès que nous avons le dos tourné. Elle vient nourrir l'idée qui circule aussi beaucoup sur les réseaux sociaux qu'il y aurait chez les stars, chez les vedettes, des soirées secrètes dans lesquelles il se passerait des choses absolument criminelles.
Ça serait pédophile beaucoup, il y a une espèce d'obsession.
On vient rejoindre toute la narrative du mouvement MAGA dont vous avez déjà parlé dans cette émission, hein, MAGA, Make America Great Again. Les fans de Donald Trump, le mouvement QAnon, qui imagine qu'il y a à la tête des affaires du monde une secte de pédophiles satanistes qui gouvernerait en secret. Eh bien, pour ces gens-là, ils représentent quand même quelque chose d'important, notamment en Amérique, mais pas seulement. Eh bien, Emmanuel Macron est l'un des représentants de cette secte pédophile sataniste.
Alors, on a bien compris, effectivement, qu'il y avait toujours deux niveaux, en fait. Il y a à la fois nuire à sa cible, et puis nuire aussi au service d'une idéologie. Et c'est pour ça qu'on peut s'attaquer, effectivement, à un président de la République, qu'on cherche ça. Mais du coup, quand je vous écoute, Thomas Huchon, quand on voit le chemin que tout ça a pris, on se dit que maintenant, c'est fichu, en fait, c'est trop tard. La rumeur, ça ne disparaîtra jamais.
Alors, je crois que la rumeur ne disparaîtra jamais. D'une manière générale, les rumeurs ne disparaissent jamais. On pourrait se référer à ce qui avait été dit dans les années 70 à propos de Madame Pompidou, qui elle-même était aussi accusée
des balais bleus aussi,
d'avoir des soirées scabreuses, des choses absolument ignobles aussi. On peut revenir à d'autres histoires. On parle des États-Unis. Michelle Obama était elle aussi accusée de la même chose.
Mais je voulais vous emmener là-dessus, Macron. Parce qu'aux États-Unis, dans les affaires dont on a entendu parler, il y a eu cette histoire de Pizzagate où il y avait... une espèce de réseau pédophile au fond d'une pizzeria. Il y a même des gens quand même qui sont allés casser la gueule au propriétaire.
Alors il y a un homme qui a été armé pour essayer de faire la justice lui-même et qui a voulu sauver ses enfants qui étaient dans le sous-sol de cette pizzeria, sauf qu'il n'y avait pas de sous-sol dans cette pizzeria, ce qui limitait la possibilité.
Exactement, donc il y a eu ça, effectivement, c'est ce que vous racontez, cette espèce de réseau pédophile monté, mis en épingle, inventé par QAnon. Et puis effectivement, alors Hillary Clinton aussi, à un moment on a dit qu'elle était, en fait c'était un homme trans,
Michelle
Obama
aussi.
On a dit la même chose,
on regardait Yacine Dardenne. Michelle Obama, on regardait d'ailleurs, oui, et la première ministre néo-zélandaise.
Ancienne première ministre néo-zélandaise. Voilà. Donc, du coup,
on voyait les épaules de Michelle Obama. Et en fait, mais vous voyez, il y a plusieurs niveaux. Il y a tout ce qu'on dit là. Et puis, il y a tout un jeu d'images passées au ralenti dans lequel on montre les plis de la robe de Michelle Obama, les formes sur le jean de Brigitte Macron. Tout ça est quand même d'une espèce d'horrible méchanceté. En réalité.
Et cette obsession à la fois sur le complot pédophile effectivement mené par les chefs d'État et sur la transidentité en fait. Comment se fait-il que ce soit un angle d'attaque quasiment récurrent chez ces gens-là ?
Bah, déjà, ces angles d'attaque ne sont pas forcément nouveaux. Ces angles d'attaque ont toujours existé dans un certain type de courant idéologique. Je pense à l'extrême droite, aux catholiques intégristes qui défendaient ce genre d'idées, hein, qu'il y avait chez les puissants ce genre de comportement. Il y avait dans la propagande nazie, tout un tas de choses qui imaginaient que les juifs faisaient des parties fines aussi. On a retrouvé le même genre de discours au Rwanda pour parler des Tutsis. Les Hutus imaginaient aussi une espèce de sexualité complètement dingue pour leurs futures victimes. Donc, il y a quand même quelque chose qui vient épouser un narratif d'extrême droite qui prend de l'ampleur dans nos pays, qui prend de l'ampleur sur la planète, qui est poussé aussi par un certain nombre d'algorithmes. Quand on voit les positions tenues par un personnage comme Elon Musk, qui est quand même le patron du réseau social X, hein, 400 millions d'utilisateurs sur la planète, eh bien, on se dit quand même qu'il y a une forme de proximité entre ces positions d'extrême droite, extrêmement d'une morale totalement dépassée, et ces critiques-là. Donc ça épouse aussi une forme de courant idéologique qui gagne du terrain. terrain sur la planète aujourd'hui.
Après, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez cité Claude Pompidou, mais donc on était à Hillary Clinton, Jacinda Ardern, Michelle Obama, Brigitte Macron, que des femmes.
Ben oui, je crois qu'il faut aussi remarquer...
Et des choses de cette ampleur-là sur un homme, vous êtes meilleur que moi là-dessus, mais je n'ai pas trouvé, moi.
Non, on n'a pas d'équivalent de cet ordre-là. Ce qu'on pourrait retrouver, par exemple, dans l'actualité française, on peut se remettre au début des années 2000 avec l'affaire Baudis, qui, d'une certaine manière, fait un petit peu ce genre d'écho.
Pareil, balai bleu, etc.
Voilà. D'ailleurs, on retrouve un petit peu dans ceux qui attaquaient Baudis à l'époque, ceux qui attaquent Brigitte Macron aujourd'hui. Hein, on retrouve un peu les mêmes genres de personnes et les mêmes genres de courants idéologiques. Mais non, je crois qu'il n'y a pas de choses de cette ampleur-là. Peut-être qu'on pourrait imaginer Barack Obama, dont on l'accusait d'avoir non pas une transidentité, mais une transnationalité.
Oui, c'est vrai. Hein,
il n'était pas, pas un vrai Américain. Il y a des choses de cet ordre-là. Et puis, il y a aussi tout ce qui va être... tous les personnages qui seraient peut-être morts, mais pas vraiment morts, ou qui auraient été remplacés. J'imagine que vous adorez les Beatles.
Oui,
et
Paul McCartney, bien sûr.
Voilà, Paul is McCartney, dead. Et voilà, il a été remplacé en 1967, évidemment, selon les complotistes.
Ouais.
Donc vous voyez qu'il y a quand même une espèce de truc un petit peu fantasmagorique permanent dans ces récits-là. Un point quand même là-dessus. Ces réseaux sociaux qui vont chercher à capter notre attention, eh bien, en réalité, ils ne sont pas que des réseaux d'information, ils sont avant tout des réseaux de surveillance. Ils savent ce que nous pensons un petit peu. Et donc, si ils arrivent à générer ce type de buzz, eh bien, c'est que les spécialistes de la Silicon Valley ont compris
et qu'on était
qui
mûrs.
Allaient être sensibles à ces histoires et à qui ils allaient la raconter. Moi, je la vois passer assez rarement, cette histoire.
Mais moi non plus.
Vous pouvez l'imaginer. Donc, ça veut bien dire qu'il y a, à minima, une formule mathématique prévue dans les algorithmes des réseaux sociaux pour faire du buzz sur le dos de Madame Macron et du président de la République française. Je crois qu'il y a un moment, il va falloir que tout ça s'arrête et que nous reprenions le contrôle sur ces espaces d'information et de surveillance. Il ne faut pas oublier que finalement, la principale forme de pouvoir dont nous disposons, c'est la transparence. Si nous ne pouvons pas juger par nous-mêmes, eh bien nous ne pouvons pas nous défendre face à ces hordes, qu'elles soient réelles ou virtuelles. Et là, à l'heure où nous nous préparons peut-être à des chocs politiques un petit peu de soubresaut, peut-être une dissolution, peut-être une présidentielle anticipée, moi, j'ai un petit peu peur de l'impact de ces réseaux et de leur capacité à manipuler l'information. Je ne sais pas très bien comment notre démocratie peut continuer à résister.
Une toute dernière chose. Candace Owens, qui est celle qui propage, qui a commencé à propager cette rumeur aux États-Unis, fait partie de ces gens qui ont vrillé du jour au lendemain. C'était en 2016 pour ce qui la concerne. Donc, il y avait cette chose-là qui existait, qui était dans l'air. Et puis, il y a eu 2020. Il y a eu les confinements. Est-ce que vous, typiquement, dans votre travail autour de ces choses-là, vous rendez compte du basculement qu'il y a eu en 2020, du basculement planétaire ou pas ?
C'est certain que le fait que nous soyons séparés les uns des autres nous pousse à nous enfermer sur nous-mêmes. C'est certain que, enfermés sur nous-mêmes et confrontés à des outils numériques, ces outils prennent de plus en plus d'ampleur sur nous. Et je crois que nous sommes obligés de constater que nous n'avons peut-être pas suffisamment pris en compte la fragilité d'un certain nombre de gens autour de nous, parfois de nos proches, de nos compatriotes, de nos concitoyens, et que nous les avons un petit peu abandonnés, tels des brebis à des loups qui n'en ont fait qu'une bouchée et qui continuent de les manipuler à coups d'algorithmes. Moi, je suis parfois terrifié quand j'entends des familles dans lesquelles les gens n'arrivent plus à parler. Et moi, je ne vais pas vous faire Calimero aujourd'hui, mais vous êtes vous-même aussi victime de tout cela. J'ai été regardé un petit peu sur les réseaux aussi. Les attaques qui nous sont portées, la violence qui nous est faite, doit quand même aussi interroger. À un moment, ce sont quand même des vrais gens qui nous injurient toute la journée. Ce truc-là, il faut quand même qu'on arrive à le résoudre. Nous partageons le même pays, nous respirons le même oxygène.
Autrement qu'en quittant les réseaux, peut-être.
Il faut à minima que nous arrivions à continuer à nous parler. Ce n'est pas possible autrement. Et cette affaire-là, elle montre bien les limites de ce que peut être un débat, parce que ce qui a disparu, ce n'est plus les opinions diverses, ce sont les faits. Hein. Là, les faits sont faux, et pourtant, tout un tas de gens prétendent qu'ils sont vrais. C'est un peu l'effet alternatif de Donald Trump, version 2024.
Thomas Huchon, vous avez écrit « Résister aux fake news » publié chez First. Merci beaucoup. Il y a un QR code où on peut se tester. C'est vachement bien, le
alors,
petit quiz,
un
je vous
petit
le conseille.
Quiz. 20 questions pour se tester sur les fake news. On a à peu près 4000 personnes qui ont pris le quiz. Sur 20, la note moyenne est de 9,5.
Ouais, on se fait un peu
ne
peur.
Soyez pas énervés si vous avez une mauvaise note. C'est juste qu'il faut travailler un petit peu pour lutter contre les fake news.
On se fait un peu peur. Merci beaucoup. La prochaine escale d'un jour dans le monde, c'est Louise Baudet qui remet le monde à l'endroit.
Les Européens se méfient des ingérences russes et l'Amérique, alors l'Amérique de Trump, elle aussi s'immisce dans nos vies publiques et politiques.
Eh ben voyez, on n'en sort pas. Allez, juste après ça.
Why should I smile? Why should I smile for you? Voice once sublime, now whistle sour tunes. I had no time for cheap words, table wine. I have no time for thin saris from a swine. Why should I smile? Why should I smile for you? Tongue once divine, tasting foul since June. I have no space for double faces on my dime. I have no grace for my lovers in my crimes. Another day without you, I'm better off without you. Another day without you, I carry on without you. Why should I smile? Why should I smile for you? Action so vile, speak clear and loud of you. I pay no mind to your begging and your pleas. I pay no mind even though you're on your knees. Another day without you, I'm better off without you. Another day
et Mélissa Lavaux. Why should I smile? Ben parce que c'est mercredi, par exemple. Allez, Louise Baudet, remet le monde à l'endroit.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Et donc, Louise, vous nous parlez des ingérences étrangères qui ne viennent pas que de Russie.
Oui, celles-là sont certes les plus manifestes. Opération de déstabilisation venue de Moscou, dénoncée ce soir par Emmanuel Macron. Le président français est en Moldavie avec l'allemand Friedrich Merz et le polonais Donald Tusk. Visite éclair pour dénoncer la guerre hybride menée par la Russie dans l'ex-petite république soviétique qui a la mauvaise idée de se tourner vers l'Europe et que Poutine veut réarrimer à la mère patrie à coup d'achat de voix et de désinformation sur les réseaux sociaux. Mais cette ingérence la massive, régulièrement dénoncée, n'est pas la seule à laquelle l'Europe est confrontée. Gardez-moi de mes amis, quant à mes ennemis, je m'en charge. C'était Voltaire qui le disait. Depuis le 20 janvier, l'Amérique de Donald Trump multiplie les immixtions dans la vie politique et les affaires publiques des pays européens.
Et aujourd'hui, c'est au Danemark que ça se passe. Hein.
Oui, le Danemark a convoqué aujourd'hui le chargé d'affaires américain, représentant diplomatique de Washington, à cause de tentatives d'ingérence au Groenland. Le territoire autonome danois est convoité, vous le savez, par Donald Trump qui a menacé plusieurs fois de l'annexer. Et la télévision danoise vient de révéler que des Américains agissent en ce moment au Groenland pour manipuler l'opinion contre Copenhague. Soupçon qui valent au chargé d'affaires sa deuxième convocation en trois mois. Les convocations d'ambassadeurs, eh bien, on connaît aussi en France. Charles Kushner, l'ambassadeur américain à Paris, et sa charge violente contre le gouvernement français, accusé de ne pas agir contre l'antisémitisme. On en parlait avant-hier. Loin des usages feutrés de la diplomatie, l'ingérence politique est assumée, mieux revendiquée.
Et il y a des précédents.
Oui, on se rappelle évidemment la grande leçon de démocratie infligée aux Européens par J.D. Vance, le vice-président américain à la conférence de Munich en février dernier. Une redéfinition toute trumpiste de la liberté d'expression suivie d'un gros coup de pouce à l'AFD, le parti d'extrême droite allemand, alors en pleine campagne des législatives. Autre pays particulièrement visée, le Royaume-Uni. Et là, c'est l'ex-meilleur ami de Trump, vecteur puissant de sa révolution conservatrice, qui est à la manœuvre, Elon Musk. Elon Musk qui ne manque pas une occasion de dénigrer les travaillistes au pouvoir et a longtemps poussé les feux du leader d'extrême droite Nigel Farage avant de le trouver trop mou et de lui retirer son soutien. La puissance de son réseau X intéresse d'ailleurs la justice française. Elle le suspecte d'avoir modifié ses algorithmes pour mettre en avant des thématiques favorables à l'extrême droite, on en parlait. Pendant que son outil d'intelligence artificielle, Grok, a sérieusement déraillé cet été, il s'est mis à encourager à voter Marine Le Pen et à saluer l'efficacité d'Adolf Hitler.
Le numérique, Louise, c'est un vecteur de ses ingérences, mais c'est pas le seul.
Effectivement, en France, l'activité de la sphère MAGA est surveillée par l'une des équipes de Viginum, l'agence interministérielle chargée de lutter contre les ingérences numériques étrangères. Mais la guerre culturelle menée par les réseaux trumpistes a aussi des relais politiques, tout ce qu'il y a de plus officiel, des dirigeants européens, de vieux amis comme le Premier ministre hongrois Viktor Orban et des plus récents comme le nouveau président polonais Karol Nawrocki, en grand admirateur de Trump, reçu à la Maison-Blanche peu avant son élection il y a 4 mois. Aboutissement dans les urnes, un parmi d'autres, de connexions en construction depuis plusieurs années entre les droites réactionnaires des deux rives de l'Atlantique.
Louise Baudet. Le reportage d'un jour dans le monde est en Colombie ce soir. Nous sommes dans la capitale économique, Medellín, qui entend devenir la Silicon Valley de l'Amérique latine. Elle s'en donne les moyens, hein. Un grand plan de transformation est en cours, les autorités et les entreprises main dans la main. La ville doit devenir un Medellín 4.0. Depuis la fin de la pandémie, ça se voit. Des immeubles de coworking, de nouvelles entreprises internationales qui s'installent. Le chemin est long, mais la route est plutôt droite et c'est Najed Benrabah qui raconte.
C'est le grand jour, au cœur du parc des expositions de Medellín, Plaza Mayor. Il accueille le deuxième Connection Summit. L'événement réunit entrepreneurs, entreprises, fonds, universités et autorités locales. Durant 2 jours, chaque participant va tenter de créer des liens professionnels pour lancer de nouveaux projets. Dans la salle, installés en arc autour de la scène, des centaines de personnes avec leurs tablettes, ordinateurs ou téléphones à la main. L'événement compte plus de 60 entreprises qui rencontrent plus de 400 start-up. Carolina Londoño Pelaez, directrice exécutive de l'organisme Ruta N, un des partenaires du sommet.
Depuis 16 ans, Ruta N accompagne Medellín dans sa transformation. Nous mettons en relation des entreprises des secteurs des technologies émergentes, comme l'intelligence artificielle, la blockchain, la gestion des données et même la biotechnologie. Nous avons fait un énorme pari là-dessus.
Au total, 8000 visiteurs sont attendus et plus de 3000 rencontres ont été programmées. Cette année, un pays est l'invité d'honneur de l'événement, Porto Rico. Alan Taveras est le directeur du développement des affaires chez Invest Puerto Rico, une agence officielle du gouvernement portoricain.
En faisant quelques recherches, nous avons commencé à voir beaucoup d'entreprises de la fintech, la technologie financière. Ce que nous voulons, c'est comprendre où en sont ces entreprises et leur donner de nouveaux outils pour poursuivre leurs activités. Nous avons des rendez-vous avec des startups qui ont déjà atteint un sérieux niveau d'investissement, des startups qui sont bien ancrées dans leur domaine ou qui sont en train de lever des capitaux et qui ont les ressources pour se développer à l'extérieur du pays.
Actuellement, Medellín abrite 25% des startups du pays. Même si la capitale Bogota a toujours eu une longueur d'avance sur Medellín, la croissance économique a été constante. Ces dernières années, le nombre d'immeubles de coworking n'a fait qu'augmenter. Pour se rendre compte, nous sommes à l'entrée de l'immeuble de WeWork, dans le quartier huppé de Poblado, dans le sud de Medellín. Cette entreprise originaire des États-Unis propose la location de bureaux. Sébastien Palacios, le responsable des lieux, nous accueille.
Beaucoup de clients sont des personnes qui travaillent de manière indépendante. Mais du côté des entreprises, une grande partie sont des centres d'appel. Nous avons beaucoup de sociétés de technologie, de développement de logiciels. Nous avons des cabinets d'avocats, des sociétés immobilières et surtout dans l'immeuble sur l'avenue de Palmas, des personnes qui se consacrent à la vente de voitures et de biens, à la construction, au marketing numérique, à l'e-commerce, à la technologie et de grosses entreprises comme Amazon.
L'entreprise WeWork est présente dans 7 pays d'Amérique latine, Mexique, Costa Rica, Argentine, Chili, Pérou, Brésil et Colombie. Elle possède 7 immeubles à Bogota et 3 à Medellín. Sébastien Palacios confirme une hausse de l'activité.
En ce moment, le plus grand centre de coworking est celui-ci. Ici, nous avons une capacité de 1 560 personnes Et actuellement, nous sommes à un taux d'occupation de 70%. Celui d'Anterardin a une capacité de 1000 personnes et celui de Palmas a une capacité de 1120 personnes. Celui de Anterardin est à 88% d'occupation et celui de Palmas est également à 72-73%.
Même si Medellín a le vent en poupe, de nombreuses villes d'Amérique latine sont dans la même dynamique et veulent devenir la Silicon Valley de la région. Alors, durant la convention Connection Summit, de nouveaux projets ont été lancés, comme celui intitulé U-Ventures, un fonds de plus de 2,5 millions d'euros pour promouvoir les talents universitaires. Objectif, propulser 300 start-up et en financer au moins 30 d'ici 5 ans.
Najed Benrabah pour le reportage, merci beaucoup. La suite d'Un jour dans le monde, c'est Guillaume Audat qui émerge de sous les radars.
Direction Gaza, on va faire un peu de muscu, Fabienne, avec un jeune influenceur qui nous raconte comment on fait des pompes ou des abdos dans les décombres et avec très peu, trop peu de protéines.
Et un nouveau rendez-vous du mercredi avec vous, Ilana Mor-Youssef. Ça s'appelle « Écrire le monde » ou « Comment les écrivains s'emparent de la planète ».
Et ce soir, l'écrivain irlandais John Boyne, homosexuel revendiqué, est-il transphobe ? C'est la polémique du moment en Grande-Bretagne.
Et c'est juste avant 19h. À tout de suite, voici Donovan et sa chanson « Mellow Yellow » au goût de marshmallow à la banane. Et vous savez qui fait les chœurs ?
Non.
Eh bien, c'est Paul McCartney.
Wow.
Eh bien, oui.
I'm just mad about saffron. Saffron's mad about me. I'm just mad about saffron. She's just mad about me. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. About 14, 14's mad about me. I'm just mad about 14. She's just mad about me. They call me mellow yellow. They call me mellow yellow. Quite rightly, they call me mellow.
Donovan et Mellow Yellow sur France Inter.
With everything that's been going on over the past few weeks and months here in Gaza, my daily routine has been as stable as
Et sous les radars, Guillaume Oda commence à Gaza. Et c'est un bodybuilder amateur qu'on entend ici qui nous raconte sa vie quotidienne.
Voilà, il nous dit même que ses routines quotidiennes de musculation, elles sont aussi stables que les marchés financiers. En gros, ça monte, ça descend et vu de Gaza, ça plonge dans le rouge, évidemment. Il s'appelle Mohamed Hatem, ce jeune homme. Il a 19 ans sur Instagram. Il est connu sous le pseudo Gym Rat in Gaza, qu'on pourrait traduire par passionné de muscu à Gaza. Et il décrit chaque semaine à ses 400 000 abonnés ce que ça représente que de pratiquer son sport, la musculation, à la fois sous les bombes et dans un contexte de famine rampante. Gym Rat in Gaza, il fait des pompes, des tractions dans les décombres. Dans ses vidéos, on entend le son des drones. Et il raconte que pour maintenir sa masse musculaire, il lui faudrait environ 2500 calories quotidiennement. Il en avale à peine la moitié par jour. Tranche de vie sur les réseaux, documentée par un influenceur. Il y a aussi des étudiants, il y a des skateurs. Ils nous disent que malgré tout, la vie continue là-bas ou pas. En mai dernier, la plus jeune influenceuse de Gaza, Yakina Hamad, elle avait 11 ans, a été tuée par une frappe israélienne à Deir el-Bala.
L'ex-championne de tennis, Serena Williams, elle prend des médicaments pour entretenir sa ligne.
Mais avec un traitement normalement réservé aux diabétiques, un cousin du fameux Ozempic, dont on a beaucoup parlé. Alors évidemment, l'effet miroir avec l'histoire précédente est consternant. Mais voilà, il y a quelques jours, sur la même planète, aux États-Unis, Serena Williams, icône mondiale du sport et de la culture, a raconté au magazine People comment et pourquoi elle utilisait ce médicament, en principe prescrit sur ordonnance, mais qui fait fureur chez celles et ceux qui sont en quête de minceur parce qu'il a des vertus amaigrissantes. Le problème numéro un, c'est que la demande est telle que ça entraîne de vraies pénuries pour les vrais malades. Ensuite, au-delà du côté transparence et du côté « je vous dis comment j'ai fait pour maigrir », ce qui suscite le trouble, c'est que Serena Williams est une ambassadrice rémunérée par une entreprise de télésanté qui a le droit de prescrire en ligne ses traitements hors indication, une entreprise dans laquelle son mari, Serena Williams, a investi beaucoup d'argent et dont il est par ailleurs membre du conseil d'administration ou comment perdre du poids et faire grossir son portefeuille.
Une balade acoustique, Guillaume, pour terminer, mais un cri de détresse aux Pays-Bas.
Oui, celui d'une jeune artiste néerlandaise, Quinty's Official, qui raconte que la nuit est tombée, elle rentre chez elle, seule, elle a son téléphone bien en main au cas où elle fasse une mauvaise rencontre. Elle s'inspire d'une histoire vraie, cette artiste qui a bouleversé les Pays-Bas, le meurtre la semaine dernière en pleine rue et en pleine nuit d'une adolescente, Lisa, 17 ans, qui rentrait de soirée. Ça a suscité là-bas un vent de colère, mais également un questionnement sociétal très profond. Elle aurait pu rentrer accompagnée ou en taxi, mais non, parce que le penser, ce serait faire de cette adolescente la complice de sa propre tragédie. C'est ce qu'a écrit l'une des autrices les plus célèbres du pays. Pourquoi est-ce que la nuit ne nous appartient pas à nous, les femmes ? Droit à la nuit, c'est le hashtag et le plus gros débat en ce moment aux Pays-Bas.
Guillaume Oda,
France Inter. Un jour dans le monde.
Et le mercredi désormais à 18h53, on est heureux d'accueillir Ilana Mor-Youssef. Ça s'appelle Écrire le monde ou comment les auteurs et la littérature regardent la planète. Ilana, pour cette première, on va parler de l'écrivain irlandais John Boyne qui sort un nouveau roman en cette rentrée littéraire. Ça s'appelle Les éléments. Et cet été, il a été au centre d'une controverse dont il se serait bien passé, des accusations de transphobie alors qu'il venait d'être sélectionné pour un prix littéraire britannique qui s'appelle le Polary Prize.
Et oui, il arrive quelquefois, chère Fabienne, que l'actualité percute la lecture d'un roman. Cet été, alors qu'avec l'équipe de France Inter, nous étions en train de travailler à notre sélection de la rentrée littéraire...
Les fameux 10.
Voilà, les fameux 10. Je suis tombée sur un article du Guardian mettant en cause l'écrivain irlandais John Boyne, star dans son pays, et dont le nouveau roman était précisément dans nos piles de livres. Je vous résume l'affaire rapidement. À l'occasion du 60e anniversaire de son ami J.K. Rowling, l'autrice de Harry Potter, Boyne a publié une tribune dans le Irish Independent où il dit son admiration pour ce que Rowling a accompli en tant qu'écrivain et surtout, il lui apporte son soutien pour ses positions sur les personnes transgenres, à savoir, pour dire les choses grossièrement, une femme est une femme et une femme trans est une personne transgenre. Et les autoriser à participer aux mêmes compétitions ou à utiliser les mêmes toilettes, par exemple, reviendrait à mettre les femmes en danger ou à les effacer.
Et alors, quel rapport avec les livres ?
Eh bien, j'y viens. Il se trouve que la tribune de Boyne a coïncidé avec la sélection du Polary Prize, un prix littéraire britannique qui couronne un auteur LGBTQ+, LGBTQ+, voilà, je l'ai bien dit, et que le nouveau roman de Boyne ne figurait dans leur sélection. Alors, scandale, indignation, démission de membres du jury, retrait de 16 auteurs sur les 24 sélectionnés, pétition de 800 acteurs du monde de l'édition, et tous réclamant la même chose, que Boyne soit exclu du prix. Amy Twigg est l'une de ses autrices. Elle explique sur TikTok les raisons de sa colère.
J'ai toujours été une grande supportrice du prix Polari. Être sur leur liste était un de mes rêves d'écrivaine. Quand j'ai découvert que j'étais sélectionnée, j'étais folle de joie. Ça a duré quelques heures, puis j'ai découvert que John Boyne aussi était sur leur liste. Il a écrit un article répugnant sur son soutien à J.K. Rowling et sur le fait qu'il ne croit ni au droit ni à l'existence des trans. Alors, en toute conscience, j'ai décidé que je ne pouvais pas faire partie de ce prix. Rester dans la sélection équivaudrait à être complice des positions du prix Polari et de Boyne. C'est honteux d'en être arrivé là.
Et alors, qu'est-ce qu'ont fait les organisateurs du prix, Lana ?
Alors, ils n'ont pas voulu exclure John Boyne, donc ils ont tout simplement annulé le prix pour cette année. Eh bien, quant à moi, ça m'a donné envie de savoir ce qu'il y avait dans son roman, les éléments, un beau roman romanesque à la construction impeccable, qui aborde un sujet difficile, les abus sexuels commis sur les enfants. Le roman est composé de 4 novellas, 4 petits romans si vous préférez, au... Terre, feu et air, les 4 éléments. Et à chaque fois, le narrateur change. Un personnage esquissé dans une partie devient celui qui raconte dans la partie suivante. Pourquoi ? Eh bien parce que ça permet d'explorer plusieurs points de vue. Dans le roman, Vanessa, une mère dont la fille aînée a été incestée par son père, se tourmente, et je cite, « Ne rien remarquer, ne rien soupçonner, voilà ce qui me fait le plus honte, voilà ce qui me pousse à m'interroger. Est-ce que j'étais aveugle ou juste stupide ?» Il faut savoir que John Boyne est un homosexuel revendiqué, qu'il a été lui-même victime d'abus sexuels dans son enfance et qu'il a écrit en 2021 un livre courageux, je rappelle qu'on est en Irlande, sur les abus sexuels dans l'Église. Un livre qui s'intitule « Il n'est pire aveugle, sous-entendu, que celui qui ne voit pas ». J'ai joint au téléphone la traductrice attitrée de John Boyne, Sophie Aslanides.
Effectivement, c'est un livre que moi je trouve vraiment nécessaire. Et là où il a un talent littéraire fou, c'est qu'il a choisi dans ce livre-là de faire de son personnage principal l'ami proche du coupable. Et donc ça lui a permis de développer toute cette partie de cette problématique qui est « on le savait mais on n'a rien dit, est-ce qu'on le savait vraiment, jusqu'où on en avait conscience, qu'est-ce qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait ?» Et je trouve qu'effectivement dans ce livre et sur cette problématique-là qui était particulièrement difficile, il a écrit un livre extraordinaire.
Alors est-ce qu'il fallait clouer John Boyne au pilori ? On ne va pas trancher cette question ici. Ce que je peux vous dire, à l'heure où on excommunie comme on respire, c'est qu'à France Inter, nous avons aimé son roman et que nous l'avons mis dans notre sélection de la rentrée littéraire.
Et ça s'appelle donc Les éléments, traduit de l'anglais par Sophie Aslanides, publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup, Liana Mor-Youssef. Rendez-vous est pris, vous reviendrez mercredi prochain.